Voilà, je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ces merveilleux moments. Merci Seigneur pour la possibilité du baptême. Merci Seigneur pour la signification que tu as voulu pour ce baptême. Seigneur, nous te rendons gloire de ce que tu as penché ton oreille vers nous. Seigneur, et que tous, nous pouvons déclarer que tu es notre Dieu et que tous, nous avons la possibilité de marcher en nouveauté de vie grâce à ton œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, dans le passé, si on fait l'histoire de l'Église et on est quelques-uns à faire ça le samedi matin, on n'en a pas encore parlé, mais le baptême a été un problème à partir du 3e siècle après Jésus-Christ. On a commencé à discuter ferme sur le baptême, sur la façon dont ça devait se faire. Jusqu'au 3e siècle, les baptêmes étaient des baptêmes par immersion tels qu'il a été fait aujourd'hui. C'est ensuite que, avec les maladies, les famines, les pestes, lorsqu'on voyait les gens mourir en grand nombre, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Que va-t-il se passer avec mon enfant s'il meurt maintenant? Et donc, peu à peu, ça a pris quand même 3 siècles aussi, s'est installée l'idée qu'il fallait baptiser les nourrissons et il fallait les baptiser quam primum, c'est-à-dire le plus rapidement possible, c'est-à-dire 8 jours après la naissance. Ça, c'est la tradition actuellement. Pour les orthodoxes, c'est 40 jours après la naissance. Si le baptême religieux ne nous convient pas, sachez que on peut aller à la mairie et demander à se faire baptiser civilement. Eh oui. Vous pouvez obtenir un baptême républicain. 1794. Je ne sais pas si vous êtes au courant, non? Si? Voilà, donc le baptême républicain vous fait rentrer dans la communauté républicaine. Les protestants, les luthériens, comme les calvinistes, les catholiques, baptisent les nourrissons. Ça, c'est la tradition. Les évangéliques baptisent les adultes. Les évangéliques, on va dire de façon large, mais j'inclus évidemment toutes les autres composantes, on va dire, les pentecôtistes, les baptistes, évidemment les baptistes plus que les autres encore. Maintenant, on a entendu le témoignage d'Emmanuel. Et il nous a dit quelque chose d'important. Il nous a dit que, quelque part, d'une manière un peu indéfinissable, mais de façon assez certaine, Dieu lui avait parlé avant qu'il n'entre dans cette eau. Et c'est parce que Dieu lui a parlé qu'il a dit, moi je veux rentrer dans cette eau. Jésus lui-même a dit, on le lit dans Matthieu, vers chapitre 28, qu'il était nécessaire que nous soyons baptisés. C'était un commandement de sa part. Matthieu 28, verset 19. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les et enseignez-leur. « On peut se poser une question. Chacun, quelle que soit votre origine, que vous soyez des habitués de l'église évangélique, que vous veniez là pour la première fois, que vaut mon baptême? Qu'est-ce qu'il vaut? Dans Actes 19, c'est un peu la question que l'apôtre Paul a posée lorsqu'il arrive à Éphèse. Il rencontre des disciples de Jean, le Baptiste, et il s'adresse à eux. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. » C'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est une question qu'il est difficile de demander à un nourrisson, n'est-ce pas? Il aura du mal à vous répondre. Jean a baptisé d'un baptême qui est le baptême de repentance. C'est un baptême qui n'est pas négligeable. Mais parfois, j'ai peur que nos baptêmes en soient restés là. C'est-à-dire que nous nous sommes fait baptiser sur une profession de foi. Et on va voir plus tard que ça n'est pas suffisant. Le baptême de repentance n'est pas suffisant. Ils avaient été baptisés. Il leur manquait quelque chose à leur baptême pour qu'ils fussent... Il manquait quelque chose à leur baptême, bien qu'ils fussent baptisés par immersion pour la rémission des péchés. Ils n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus. À cause de cela, ils avaient besoin d'être rebaptisés. J'aimerais qu'on aille dans Ézéchiel, chapitre 36. Et ensuite, nous lirons l'histoire de Nicodème, tout de suite après. Et j'aimerais mettre ces deux moments en relation. À partir du verset, alors Ézéchiel 36, à partir du verset 25 ou 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Je vais m'arrêter là. Ézéchiel prophétise ce que Dieu fera pour son peuple, pour Israël, mais bien au-delà, pour nous, l'Église. C'est une promesse qui s'adresse aux chrétiens. Et dans Jean, donc chapitre 3, nous lisons la rencontre de Jésus avec un docteur de la loi. C'était un érudit, quelqu'un qui connaissait très bien la Bible juive, la Torah, et les textes de la tradition. Verset 2. Rabbi, donc ça signifie maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Je pense que Jésus avait ce passage d'Ézéchiel dans la tête lorsqu'il s'adressait à Nicodème. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et dans Ézéchiel, il est dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. La caractéristique d'un enfant de Dieu, c'est qu'il vit dans le royaume de Dieu et que son Père est Dieu. Dans Ézéchiel, au verset 25, il est dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. N'est-ce pas? Il y a un nettoyage qui est fait. Il y a une purification spirituelle qui est accomplie dans le cœur de l'homme. C'est pas qu'on se lave là-dedans. C'est pas que les péchés sont restés là-dedans. Avant d'être entré dans l'eau, il y a eu une purification qui a été accomplie. Il y a quelque chose qui, dans le cœur, a fait que la souillure, je pense que tu as utilisé le mot, a disparu. Elle a laissé la place à quelque chose d'autre. Et de temps en temps, je le raconte, mais lorsque moi-même, le Seigneur m'a rencontré, je me sentais si propre que je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal, parce que c'est un état qu'on ne connaît pas. Même pas depuis son enfance. Il n'y a que lorsque l'Esprit de Dieu vient, lorsque le sang de Jésus a coulé, que tout d'un coup on peut expérimenter la pureté. Malheureusement, ça ne dure pas. On reste humain sur la terre, en proie à tout ce qui nous environne. La tentation, le péché. Et ce sentiment de pureté, cette expérience de pureté, tend à disparaître. Mais le Seigneur nous apprend à marcher avec lui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Verset 26. L'eau et l'esprit font appel au baptême de repentance. La repentance continuelle devant Dieu. Le croyant jour après jour se purifie devant Dieu. Pas seulement quand il va à la confesse. Jour après jour. Parce que, à l'intérieur, peut-être pas tout de suite à l'intérieur. D'abord à l'extérieur. Et c'est là où je veux en venir. C'est que le baptême de repentance préfigurait, on l'a dit, un autre baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est comme si un baptême, là, n'était pas complet. C'est-à-dire qu'il manquait un bout. Parce que les Juifs se purifiaient jour après jour. Et leur baptême qu'ils faisaient là n'était pas quelque chose d'inconnu pour eux. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais si on s'arrête au baptême de Jean, alors on est juste un bon juif. Parce que, croyez-moi, vous pouvez rencontrer quelques juifs dans votre vie qui vont vous montrer ce que c'est que de vivre une vie droite. Je vous assure. Et ils ne nous feraient pas lire pour certains. Il y a autre chose, et c'est Ézéchiel qui nous le révèle. La promesse va plus loin. Je mettrai mon esprit en vous. Pardon. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Autrement dit, ce n'est plus poussé par une loi ou obligé par un conditionnement qu'on obéit à la parole de Dieu et qu'on obéit à Dieu. C'est parce que dans le cœur, il y a quelque chose qui s'est passé, une opération chirurgicale, quelque chose d'indicible, quelque chose qu'on n'arrive pas à décrire. C'est que Dieu est venu. Il a ôté ce qui existait avant, qui faisait qu'on était méchant, qui faisait qu'on était impropre à comprendre la parole de Dieu. Même si on voulait suivre Dieu quelque part, même si on voulait aller à l'église, même si on avait envie d'être bien, même si on avait envie d'être comme celui-là, là-bas, qui est si bien et qui va tous les jours qui va prier et qui va à la messe. Parce que lorsqu'on essaye, on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. Parce qu'on essaye et on essaye sans arrêt, mais on n'y arrive pas. Alors il faut que Dieu vienne pour faire quelque chose. Et il enlève ce qui était de l'ancien. Il enlève ce qui était le vieil Emmanuel. Et il en fait un nouveau. Ce n'est pas qu'il est redevenu comme il était lorsqu'il était enfant. Il a reçu en lui un autre caractère, une autre capacité. Ce n'est pas une meilleure moralité. Ça va avec. Mais ce n'est pas ça, essentiellement. C'est toute sa mentalité qui est changée. C'est toutes les envies qui sont changées. C'est toutes les attirances qui sont changées. C'est toutes les relations sociales qui bougent. C'est tous les objectifs de la vie professionnelle qui tout d'un coup se transforment et on se dit mais à quoi, sur quoi je cours? C'est l'objectif principal de la vie qui change. Aujourd'hui je ne vis plus pour moi-même et je vis pour mon Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus moi le centre du monde. C'est plus moi la petite vedette. C'est lui. Frères et sœurs, de quel baptême avons-nous été baptisés? L'enfant de Dieu, celui sur qui Dieu a posé ses regards, ne recherche qu'une chose, la sanctification, la volonté de posséder en lui Christ incarné dans toute la plénitude qu'il est possible d'avoir sur la terre. Je ne vous dis pas qu'on ne fera plus de péché. Mais je vous dis que le péché ne sera plus votre style de vie. Le baptême, signification du mot baptême, vient du grec bapto, qui signifie immerger, plonger. Il y a des nuances dans les mots. Mais d'une façon ou d'une autre, on est couvert d'eau. Parce que cela symbolise la mort de Christ, son ensevelissement et ensuite sa résurrection. Vous avez vu Emmanuel rentrer dans l'eau avec Christ. C'est spirituel. Christ était là, mais en même temps, c'est symbolique ce qu'on fait là. Mais Christ est présent en lui. Il entre dans l'eau. Dans l'eau se fait une transformation pour la vie éternelle. L'ensevelissement, c'est là où les péchés restent. C'est là où on reçoit le pardon. C'est là où il y a une relation entre la mort et la vie. C'est-à-dire que la mort est attirée par Christ. Et la vie est donnée à l'homme. Et lorsqu'il ressort, il ressort dans une vie qu'on appelle une vie de résurrection. Ça, c'est symbolique. Et c'est ça qui doit se passer dans le cœur. Jésus a été baptisé. Une première fois, du baptême de Jean. Il a été baptisé une deuxième fois pour nous. On n'en parle pas souvent, mais c'est son baptême, c'est le baptême de souffrance. Il parlait avec ses disciples et ils étaient là et lui demandaient « Mais qui entre lui et moi sera à ta droite ?» Je n'ai plus les détails. Alors Marc 10, on le lit. Et Jésus leur répond « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. » Et alors qu'il pose la question, il donne la réponse. Et il leur dit, vous boirez la coupe, et vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Parce que Jésus savait que ce baptême-là, il allait le vivre pour eux. Et parce que lui allait le vivre, eux le vivraient également. En tout cas, les conséquences. Cette coupe que Jésus devait boire, c'était donc une coupe de souffrance. Alors, on est très souvent dans l'émotion lorsqu'on parle de Jésus et du sacrifice sur la croix, n'est-ce pas? Et on parle en long, en large, en travers, des clous qu'il a eus dans ses mains, de la couronne qu'il a eue sur sa tête, et de toute cette souffrance sur la croix. Mais la crucifixion n'était pas quelque chose de nouveau. Les gens, les criminels, mouraient crucifiés. Et en cela, sa crucifixion n'avait rien d'extraordinaire. Le baptême de souffrance de Jésus, c'était pas la façon dont il est mort. C'était pourquoi il est mort. Et à cause de qui il est mort. Jésus a commencé à souffrir alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. N'est-ce pas? On le sait. Il ne trouvait pas un endroit où s'arrêter pour accoucher, pour être reçu. Et Paul vous dira qu'un nourrisson ressent ces tensions que les parents ont autour d'eux, et que déjà ça, c'est quelque chose qui marque un bébé. Ensuite, alors qu'il est encore tout petit, il doit fuir, parce que Hérode le cherche pour le tuer. Et là aussi, c'est l'affolement dans la famille, et il faut partir. Et Jésus, on ne sait pas beaucoup de choses sur sa jeunesse, sur son enfance et sur sa jeunesse, mais ce qu'on sait, c'est qu'il était sans péché. Essayez d'imaginer ce que c'est que de vivre dans la pureté, entouré par le péché. Vous avez vu la neige lorsqu'elle tombe? et qu'elle recouvre le champ d'un manteau blanc immaculé. Lorsque le soleil apparaît et que vous mettez un simple point noir au milieu, vous le voyez. On pourrait dire presque qu'on aurait l'impression de voir des kilomètres à la ronde, n'est-ce pas? Tellement ça fait tache. Eh bien, je pense que c'est cela que Jésus vivait jour après jour. Il était lui blanc, immaculé. Et autour de lui, c'était tache après tache, après tache, après tache. Il a souffert de cela. Mais plus encore, lorsqu'il est allé au jardin de Gethsémané, avant la crucifixion, ce n'est pas le fait d'avoir vu ses disciples endormis qui l'a fait souffrir. Il savait ce qui l'attendait. Il savait qu'il allait mourir justement pour eux. Emmanuel nous a témoigné un peu de sa vie. Je pense que chacun ici pourrait monter sur l'estrade et nous témoigner de sa vie, des souffrances que ça a occasionnées dans son cœur, des difficultés que ça a amenées sur un plan social, sur un plan familial, de la souffrance indicible au point de vouloir en finir avec la vie, des moments de désespoir absolu. N'est-ce pas? Chacun de nous, nous avons vécu ces choses-là. Et nous en avons souffert énormément. En fait, nous avons vécu dans le péché. Et nous avons dû subir les conséquences de ce péché, n'est-ce pas? Alors, sachez que Jésus, vous prenez votre vie personnelle et toutes les conséquences de cette vie. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a pris notre péché. Et les conséquences de ce péché, il les a prises également. Et vous prenez et vous vous multipliez, et vous multipliez par des milliards ces émotions que vous avez vécues. Et vous les attribuez sur un seul homme. Vous les posez sur un seul homme qui, lui, ne les a jamais vécues comme vous, vous les avez vécues, qui découvre là quelque chose. Et vous avez une petite idée de ce que pouvait être la souffrance de Jésus avant de passer sur la croix. Toutes les émotions que vous, vous avez ressenties, toutes les conséquences du péché que vous avez dû vivre, les désespoirs, il a tout pris. Mais plus encore. Dans Galates 3, au verset 13, il est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Il a pris sur lui la malédiction. Laissez-moi vous lire, et vous en trouvez plein dans l'Ancien Testament, de quel ordre est la malédiction. Deutéronome 28, verset 20. C'est une malédiction qui était pour le peuple de Dieu s'il désobéissait. Aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Et si nous désobéissons, c'est cette malédiction-là qui normalement devrait nous atteindre. Mais c'est Jésus qui l'a prise. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la tête sous toi sera de fer. Psaume 22. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Frères et sœurs, c'est le Fils de Dieu qui parle à son Père. Son Père qui s'est séparé de lui parce qu'il ne peut pas supporter la somme de péché qui est là. Et la malédiction est sur lui. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Vous en avez des versets et des versets dans tout l'Ancien Testament. La souffrance de Jésus est là. C'est là le baptême de souffrance du Christ qui fait que nous, aujourd'hui, nous pouvons vivre et marcher dans une vie nouvelle. Parce que ces condamnations qui étaient là prévues, c'est Christ qui les a prises pour nous. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui a été fait et accompli à la croix? Frères et sœurs, de quel baptême avons-nous été baptisés? L'apôtre Paul parle du baptême dans Romains 6. Il commence par une question. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ étant sa mort, que nous avons été baptisés? Alors si la réponse est non, nous ne l'ignorons pas, alors je vous reprends avec la première question. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La vie après le baptême, qui est un baptême d'esprit, c'est une vie où le péché n'a plus sa place. Le péché n'est plus recherché. Le péché n'est plus voulu. Les tentations restent. La tentation existe. N'est-ce pas? On ne peut pas dire que les tentations disparaissent. C'est faux. Le malin a mis en place un système extrêmement sophistiqué, qui est un système fait pour tenter tout le monde, et surtout les croyants. Parce qu'il sait qu'un croyant qui est tenté et qui tombe, qui glisse dans le péché, devient inefficace pour le royaume de Dieu. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Baptisés, je le rappelle, plongés. C'est pour ça qu'on ne peut pas penser qu'un baptême où on est juste aspergé, où on nous met un peu d'eau sur la tête, va représente la vie reçue de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? C'est, on est plongé en Christ. En sa mort, pardon. Enfin, en la mort de Jésus-Christ. Et donc l'apôtre Paul déclare que le baptême en Jésus-Christ équivaut à une participation à sa mort. Nous sommes baptisés, immergés dans la mort de Christ. Le péché aurait dû nous interdire de nous retrouver dans la présence de Dieu. On ne peut pas. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que Dieu est pur. Et tout le monde sait que le péché ne peut pas se retrouver dans la présence de Dieu. C'est Christ qui le permet. Et il le permet en nous donnant la possibilité d'expérimenter une vie nouvelle. Quelque part, il est dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. En fait, c'est un chant qui dit ça, mais c'est le même sens, n'est-ce pas? Et on en a parlé un soir d'études bibliques. Pour moi, la meilleure image de ça, c'est l'infusion. L'infusion, le sachet de thé ou de tisane qu'on plonge dans l'eau. Parce que vous avez deux corps différents. Vous avez l'eau et vous avez le principe actif, l'essence. Et donc l'eau, c'est moi, c'est vous. Et le principe actif, c'est Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'un se plonge dans l'autre, qu'est-ce que vous constatez? Immédiatement, l'eau change de couleur. Et elle devient comme le principe actif. Et si vous le laissez infuser suffisamment longtemps, eh bien bientôt vous ne pouvez plus vraiment faire la différence. Vous ne pouvez plus séparer l'eau. De l'essence qui est dedans. Bon, le chimiste va dire c'est possible. Mais on n'en est pas là. Est-ce que vous êtes infusé? Est-ce que, dans un premier temps, Christ ou l'Esprit de Dieu est entré en vous? Et tout en vous a pris sa couleur, a pris son goût, son parfum. Il y a des tisanes qui... caramel, poivre... ça sent bon. Est-ce que vous avez une bonne odeur? La Bible parle de la bonne odeur de Christ. Est-ce que lorsqu'on vous côtoie, on sent la bonne odeur de Christ? Ou on sent plutôt persil, poireau? C'est pas mal non plus, remarquez. Mais par rapport à pomme cannelle... N'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que lorsque l'Esprit de Dieu vient, il inonde tout le corps, tout le cœur. Ça a un impact sur la façon de se conduire physiquement également, la façon de se déplacer. N'est-ce pas? Toutes nos attitudes changent. Lorsque vous avez été baptisé, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? C'est quelque chose qui doit venir encore. Alors, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas tout à fait terminé. Mais j'aimerais vous laisser sur cette question. De quel baptême avons-nous été baptisés? Est-ce que la transformation qui est promise dans Ézéchiel, cette prophétie qui a été faite et qui nous concerne, qui dit que notre cœur sera changé complètement, est-ce que vous vivez cela ou est-ce que vous ne le vivez pas? Si vous ne le vivez pas, alors vous expérimentez ce qu'Emmanuel a dit, un endurcissement du cœur. Je crois qu'Emmanuel a fait le bon choix. Je ne parle pas de l'Église évangélique. Il a fait le choix de Dieu. Il a fait le choix de suivre le Seigneur quoi qu'il arrive. Il a fait le choix de marcher en nouveauté de vie. Il a fait ce choix parce que dans son cœur, Dieu a fait quelque chose. Il a ôté le cœur de pierre. Il a mis un cœur de chair. Et il l'a convaincu que ses commandements ne sont pas pénibles. N'est-ce pas? Les gens qui suivent la loi de Dieu souffrent. Ils souffrent. Parce que sans arrêt, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas. Lorsque Dieu change les cœurs, on s'aperçoit que ses commandements ne sont pas pénibles. Voilà, je vais prier. Seigneur Jésus, si seulement nous comprenions mieux la nature du salut que tu nous as accordé. Seigneur, je prie que l'Esprit de Dieu vienne pour parler au cœur de chacun et pour montrer, Seigneur, quel a été ton investissement dans cela. Pour montrer, Seigneur, quels bénéfices nous pouvons en tirer. Seigneur, c'est merveilleux de savoir que tu as donné ta vie afin, Seigneur, que nous puissions découvrir une vie nouvelle et marcher en nouveauté de vie par la puissance de l'Esprit de Dieu. Que pas après pas, Seigneur, tu nous guides et tu veilles sur nous. Seigneur, que tu nous équipes de persévérance pour que nous tenions fermes jusqu'à la fin. Seigneur, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Que chacun puisse tenir ferme jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus. Amen.